La semaine sainte s'est ouverte aujourd'hui avec le dimanche des rameaux. Ce matin, le nouvel archevêque de Nouméa, Mgr Sione Poé, a présidé la messe des rameaux en la cathédrale de Nouméa. L'Assemblée générale du Palika, hier à Point-d'Imier, cette Assemblée générale a donné mandat aux élus afin qu'ils poursuivent les discussions avec le ministre des Outre-mer. La Maison-Blanche parle d'un pas en avant et de pourparlers très positifs et constructifs. Les discussions entre l'Iran et les États-Unis sur le programme nucléaire iranien ont débuté. Bruno Retailleau veut s'attaquer au réseau de passeurs pour lutter contre l'immigration clandestine. Il annonce le déploiement d'une cellule de renseignement à la frontière franco-espagnole. Le sport, le cyclisme avec la 122e édition du Paris-Roubaix. Les coureurs s'élanceront pour 259 km et devront franchir 30 secteurs pavés. Tadej Pogacar prendra le départ pour la première fois de sa carrière. Et puis le sport sur le territoire et du VTT. Le VCC Mondor organisait son traditionnel souvenir. Didier Portera, une quarantaine de coureurs étaient au départ ce matin à la Tontouta. Bonsoir et soyez les bienvenus dans ce journal. L'actualité religieuse fait ce soir encore la une de l'actualité. Mgr Susitino Sione Poé, le nouvel archevêque du diocèse de Nouméa, a donc célébré ce matin à la cathédrale Saint-Joseph la messe du dimanche des rameaux. Dimanche important dans le calendrier liturgique puisqu'il marque l'entrée dans la semaine sainte qui se terminera dimanche prochain. Ce sera pour Pâques. Écoutez le nouvel archevêque de Nouméa.
Les célébrations sont toujours des moments forts, particulièrement cette célébration des rameaux qui fait entrer toute l'Église à vivre pleinement cette semaine sainte. Donc c'est pour moi une grande joie de continuer cette fonction en tant qu'archevêque avec les fidèles, la célébration des rameaux. Le message bien clair que nous avons tous entendu sur les lectures et tout plus particulièrement la lecture de la Passion. Donc c'est une invitation à tous les fidèles d'avoir un cœur rempli de joie pour suivre les pas de Jésus et vivre avec lui pleinement ce qu'il va accomplir, c'est-à-dire donner toute sa vie en offrant lui-même sur la croix et la résurrection. Donc j'invite tous les fidèles à mettre nos pas sur les pas de Jésus.
Et pour les fidèles qui étaient très nombreux ce matin à la cathédrale Saint-Joseph de Nouméa, ce dimanche de rameaux est un jour forcément très important.
Le dimanche de rameaux, c'est aussi une grande fête pour nous. C'est la rentrée triomphale de Jésus à Jérusalem.
Le message de Mgr Susitino, sa première messe.
Apprécier son message, c'est comme c'est son premier messe aujourd'hui. Ben, nous sommes heureux de l'accueillir et puis d'écouter ses paroles.
Dimanche rameau, c'est une présentation d'accueillir, accueillir le Christ, mais aussi demander pardon. C'est la repentance, c'est l'espérance qu'il y a derrière. Voilà, on pense à tous nos soucis, nos familles.
Dimanche de rameau, c'est un événement en allant vers la Pâque.
Le dimanche des rameaux, c'est la rentrée de la semaine sainte. On prépare la Pâque.
Et ce dimanche des rameaux marquait donc l'entrée dans la semaine sainte, semaine qui conduira les chrétiens jusqu'à la fête de Pâques dimanche prochain, une semaine qui sera marquée notamment par le Triduum Pascal, cette période de 3 jours, jeudi, vendredi et samedi prochain, pendant laquelle l'Église célèbre la Passion, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. L'actualité religieuse qui aura été riche ce week-end en Nouvelle-Calédonie, puisque c'est hier après-midi, je vous le rappelle, qu'a eu lieu l'installation officielle de Mgr Sione Poé comme nouvel archevêque de Nouméa. Plusieurs centaines de fidèles se sont retrouvés à la cathédrale Saint-Joseph pour cette cérémonie très importante pour le diocèse. 11 évêques, 25 prêtres, 18 diacres ont participé à cette cérémonie de près de 2 heures en présence de nombreuses personnes et des autorités civiles et militaires. Une fois installé, le nouvel archevêque a prononcé l'homélie dans laquelle il a appelé les fidèles à l'espérance en insistant sur la justice et la paix. Et à la veille de l'installation de Mgr Susitino Sione Poé, c'est Mgr Calvet qui était vendredi midi l'invité d'Elisabeth Noir dans le magazine Transparence. Il a été interrogé sur ses 44 ans d'épiscopat, sur les souvenirs et les temps forts qu'il retient sur la situation de l'Église en Calédonie. Une interview de Mgr Calvet qui sera rediffusée juste après ce journal. Vous pouvez également la retrouver en réécoute sur notre site internet rrb.nc. Quelques mots d'actualité politique pour vous rappeler que le Palika tenait une assemblée générale. C'était hier à la tribu de Saint-Thomas à Point-d'Imier. L'occasion pour le parti de faire le point avec ses militants sur la campagne d'explication engagée avant la dernière séquence de discussion à Nouméa, mais aussi sur les discussions et les négociations en cours et sur la situation institutionnelle. Cette Assemblée Générale a également donné mandat aux élus afin qu'ils poursuivent les discussions avec le ministre des Outre-mer, Manuel Valls, qui est attendu en Calédonie à la fin du mois. C'est une nouvelle semaine qui va s'ouvrir dans quelques heures, une semaine particulière puisque nous le disions il y a quelques instants, il s'agit de la Semaine Sainte qui se terminera dimanche avec la fête de Pâques célébrant la résurrection du Christ. La semaine qui va s'ouvrir sera également la dernière de vacances pour les écoliers, collégiens et lycéens du territoire, une semaine d'actualité qui s'annonce plutôt calme, Léo Fichou.
Oui, à noter tout de même sur vos agendas que c'est demain, lundi, que débuteront les élections au conseil d'administration à la CLR, la Caisse locale des retraites. Les retraités du territoire ont jusqu'au 26 mai pour choisir leurs représentants. Mercredi, les enjeux du financement privé en Nouvelle-Calédonie seront au cœur d'un séminaire de la FEDOM, la Fédération des entreprises des Outre-mer, qui s'ouvrira donc à Nouméa. Un séminaire organisé en partenariat avec la CCI et le MEDEF-NC. Notez d'ailleurs à propos de ce séminaire que demain à 7h30, c'est Hervé Mariton, ancien ministre des Outre-mer, ancien député de la Drôme, aussi aujourd'hui président de la FEDOM, qui sera notre invité du matin. Quel regard porte-t-il sur la situation actuelle en Nouvelle-Calédonie et notamment sur les défis économiques? Rendez-vous demain matin à 7h30. Au chapitre institutionnel, c'est vendredi matin que les élus du Congrès se retrouveront en séance publique, boulevard Vauban. À l'ordre du jour de cette séance, un projet de loi du pays portant diverses dispositions d'ordre fiscal. Au chapitre culturel, rendez-vous jeudi, ce sera au kiosque à musique à la place des Cocotiers pour un événement baptisé Artiviste en scène. Le public est attendu entre 9h et 16h pour une série de concerts, mais aussi des expositions et des ateliers créatifs. Et puis enfin, dans l'actualité festive, c'est samedi que la ville du Mont-d'Or organisera la 13e édition de la chasse aux œufs. Le rendez-vous est donné de 8h à midi dans les jardins du centre culturel.
Quelques mots d'actualité festive. Après deux jours, Kefferi, la deuxième édition du Tropical Market, a refermé ses portes à 15h. De nombreux visiteurs sont venus découvrir ou redécouvrir la cinquantaine de stands qui étaient présents. Des sculptures, des bijoux, des produits cosmétiques, mais aussi des animations étaient proposées tout au long du week-end. Une belle réussite pour Marion Allegro, co-organisatrice du Tropical Market.
Alors on a eu quand même une très forte affluence, on a eu quand même beaucoup de personnes autant sur le samedi que le dimanche, malgré le mauvais temps qui s'est invité en début de matinée ce dimanche. Beaucoup de clients, beaucoup de visiteurs aussi pour les activités, les animations. On a eu la danse thaïsienne, la danse du feu hier également. Donc beaucoup de gens qui apprécient en fait le fait d'avoir autre chose que de la consommation. C'est une belle réussite. C'est une belle réussite pour les visiteurs et c'est une belle réussite pour les exposants. Parce qu'on est dans un contexte économique qui est des fois un petit peu plus compliqué. On a vraiment cette jouissance de pouvoir montrer notre travail.
Et notez déjà que le Tropical Market reviendra d'ici quelques mois. Kefferi, la date sera dévoilée tout prochainement. Il est 17h54, on va marquer une première pause dans ce journal. Dans un instant, l'actualité en métropole et dans le monde.
Accueil détendu, équipe dynamique, toujours un sourire au Bilboquet Plage.
En tête à tête ou avec des amis, toujours de la place au Bilboquet Plage.
De la simple salade au saumon fumé, toujours un grand choix au Bilboquet Plage.
Du soleil de midi aux 12 coups de minuit, toujours nous servons au Bilboquet Plage.
Au Palm Beach à Lanzvata, face aux îlots, Bilboquet Plage, un plus pour le week-end.
Des problèmes de termites, de bois, de sol ou d'insectes rampants? Pensez Flick Pest Control. Depuis 40 ans présent sur le territoire, Flick Pest Control, c'est le numéro 1 de la désinsectisation et de la lutte anti-termites. Traitement par pulvérisation, perçage et injection, épandage ou pose de piège. Flick Pest Control, 75 rue Arnold Delay à Wemo. Un numéro 28 94 20.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Et la suite du journal avec vous, Lionel Sabot.
Et l'actualité à l'étranger, la Maison-Blanche parle d'un pas en avant et de pourparlers très positifs et constructifs. Les discussions entre l'Iran et les États-Unis sur le programme nucléaire iranien ont débuté à Oman. Il s'agit des premiers pourparlers entre les deux pays depuis 2018, lorsque Donald Trump s'était retiré de l'accord de Vienne. Antoine Biavaud pour Europe 1.
L'Iran et les États-Unis sont au moins d'accord sur un point. Ils ne veulent pas de négociations qui s'éternisent, a expliqué hier le chef de la diplomatie iranienne. Les deux parties ont affirmé avoir, je cite, eu des pourparlers constructifs et sont d'accord pour se rencontrer à nouveau la semaine prochaine. Téhéran assure être même très proche d'un accord sur le contenu des futures négociations. Mais attention, il faut encore rester très prudent, selon David Rigoulet-Rose, chercheur associé à l'IRIS et rédacteur en chef de la revue Orient Stratégie.
La voie est très étroite. Si Witkoff a rappelé que le démantèlement total du programme était la position de départ, mais du point de vue iranien, l'objectif c'est de préserver les intérêts nationaux et en toile de fond, évidemment, de sauver le régime qui se sent très menacé dans sa base.
Car le régime iranien est bel et bien sous pression, étranglé par des sanctions économiques qui plongent le pays dans la crise. Au pied du mur, Téhéran pourrait donc se montrer plus souple dans d'éventuelles futures négociations. Le ministre des Affaires étrangères iranien a d'ailleurs réaffirmé son souhait hier d'entamer des discussions avec les États-Unis dans les plus brefs délais.
Antoine Biavaud du service international d'Europe 1. À chaque jour, son rebondissement sur les droits de douane, les États-Unis annoncent infléchir leur position en exemptant les smartphones, ordinateurs et autres produits électroniques des récentes surtaxes douanières imposées par l'administration Trump à la Chine. Une annonce dans un contexte de surenchère avec la Chine, à l'encontre de laquelle la taxation atteint quand même 145%. Pékin a répliqué, entraînant la colère du président américain. Situation de tension et de blocage qui pourrait peut-être bénéficier à l'Union européenne. Pour Jean-Marie Cardebat, professeur d'économie à l'Université de Bordeaux, la Chine a besoin de l'Europe et il faut, dit-il, en profiter.
Ils sont encore plus perdants dans cette histoire que quiconque, finalement, et notamment que les Européens. C'est pour ça que ça ouvre une fenêtre assez intéressante pour aller négocier avec eux et les amener peut-être à plus de raison aussi dans un rééquilibrage des échanges avec l'Europe.
Et notez qu'aujourd'hui, la Chine exporte près de deux fois plus vers l'Europe qu'elle n'importe du vieux continent. Un déficit commercial de plus de 300 milliards d'euros pour l'Union européenne. L'actualité en métropole est Bruno Retailleau qui veut s'attaquer au réseau de passeurs pour lutter contre l'immigration clandestine. C'est ce qu'a déclaré le ministre de l'Intérieur lors d'un déplacement à Biarritz. Bruno Retailleau a annoncé le déploiement d'une cellule de renseignement à la frontière franco-espagnole. Écoutez Bruno Retailleau.
Ces phénomènes migratoires, il y a derrière des trafiquants d'êtres humains qui sont violents. Il y a derrière des filières qui sont très très organisées parce que ça rapporte de l'argent. Ça rapporte beaucoup d'argent au mépris parfois de vies humaines puisque ces gens-là, ce sont des esclavagistes, hein, ce sont les trafiquants d'êtres humains et on les combat.
Et pour lutter contre l'immigration clandestine, le ministre compte s'appuyer donc sur cette cellule qui a été baptisée CERTIM, cellule de renseignement qui regroupe des services des ministères de l'Intérieur, de l'Économie et de la Défense. Bruno Retailleau qui a également commenté cette affaire qui prend une tournure d'affaire d'État. L'influenceur algérien Amir Boukhors, condamné à mort en Algérie et réfugié politique en France, aurait été enlevé et séquestré sur le sol français l'an dernier. Une intimidation pilotée, selon l'influenceur, par les services secrets algériens. Dossier que la justice prend très au sérieux puisque le parquet antiterroriste a été saisi et que trois personnes soupçonnées d'avoir participé à cet enlèvement ont été mises en examen. Parmi les suspects se trouve d'ailleurs un homme qui travaille au consulat algérien à Paris. Et cela fait vivement réagir Alger, qui parle d'une affaire inadmissible au moment où le dialogue entre Paris et Alger venait de reprendre. L'actualité en métropole, c'est aussi cette nouvelle agression antisémite à Villeurbanne, dans la banlieue de Lyon. Il s'agit de la troisième agression en moins d'un mois dans cette commune. Un homme qui portait un collier avec une étoile de David a été pris à partie par deux individus. La préfecture du Rhône indique qu'une enquête a été ouverte. Noémie Loisel pour Europe 1.
Il est 13h, un homme de 27 ans promène son chien dans la rue du Tonkin, une voie bordée de tours résidentielles. Autour du cou, il porte une étoile de David. Soudain, deux individus l'abordent et le prennent à partie. L'un d'eux lui porte un coup de poing au visage, tandis que l'autre filme la scène avec son téléphone portable. Sa casquette lui est arrachée et des insultes antisémites fusent, notamment « sale juif ». La victime réussit finalement à prendre la fuite. Cette agression, elle survient près de trois semaines après un autre acte de violence à Villeurbanne. Le 17 mars dernier, une femme de 48 ans, sans signe religieux apparent, avait été agressée alors qu'elle se rendait à un cours d'hébreu. Une femme portant un voile noir l'avait insultée, lui lançant « ici, on n'est pas en Israël », avant de lui asséner plusieurs coups, de lui cracher au visage et de la menacer de l'égorger.
Noémie Loisel, correspondante d'Europe 1 à Lyon. Dans la Vienne, une joggeuse de 28 ans est toujours portée disparue. Son père avait donné l'alerte. Un important dispositif de recherche a été mis en place pour tenter de la retrouver. Des plongeurs, un hélicoptère et plus d'une centaine de gendarmes et militaires ont été déployés dans le secteur de Vivonne, là où la joggeuse a disparu. Ce matin, les gendarmes ont annoncé la fin des recherches de ratissage au profit de recherches plus ciblées. Une enquête pour disparition inquiétante a été ouverte. Et puis dans l'actualité politique en métropole, à l'Assemblée nationale, les députés travaillent sur l'épineux sujet de la fin de vie. Après avoir voté à l'unanimité en commission une proposition de loi relative à l'accompagnement et aux soins palliatifs, les députés ont, juste avant les vacances parlementaires, approuvé la création d'un droit à mourir en élargissant les options d'administration de la substance létale. Arthur Delaborde pour Europe 1.
En adoptant un amendement déposé par les Insoumis, les députés ont modifié un point clé du texte sur la fin de vie. Concrètement, il permet à la personne souhaitant recourir à l'aide à mourir la liberté de choisir entre deux options, soit l'auto-administration du produit létal, soit son administration par un médecin ou un infirmier. Cette deuxième hypothèse est ainsi élargie par rapport à la version initiale du texte qui prévoyait que l'administration du produit létal par un soignant n'était possible que lorsque le patient n'est pas en mesure physiquement d'y procéder. Autrement dit, le modèle n'est plus celui du suicide assisté avec exception d'euthanasie, mais celui du choix entre suicide assisté et euthanasie. Après les congés parlementaires, les députés se pencheront en commission à partir du 28 avril sur une autre disposition clé, celle définissant les critères ouvrant le droit à l'aide à mourir.
Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1, 18h02, une dernière pause dans ce journal. Vous restez avec nous dans un instant, sport et météo.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
Urgence, pouvoir d'achat.
Maman, on peut jouer au jeu de Pâques?
Quel jeu de Pâques, chérie?
Le jeu de Pâques à Hyper Upaïta.
Jusqu'au 21 avril, venez jouer dans votre magasin Hyper Upaïta pour gagner 10 bons d'achat d'une valeur de 5000 francs et 2 gros œufs en chocolat d'une valeur de 9600 francs.
Profitez aussi des promos de folie avec des œufs en chocolat à petit prix.
En plus, Hyper Upaïta sera exceptionnellement ouvert lundi 21 avril de 8h à 13h.
U, commerçant autrement.
Tout le sport en trois lettres, RRB.
La suite du journal et tout le sport, Lionel Sabot.
Et on va commencer avec du football. Suite et fin cette nuit de la 29e journée du championnat de France de Ligue 1, Léo Fichon.
Quatre rencontres au programme avec d'abord votre équipe, Lionel Saint-Etienne, qui ouvrira le bal à minuit face à Brest. Les Verts qui doivent s'imposer pour continuer à croire au maintien. Même chose du côté de Angers, entre Angers et Montpellier, qui s'affrontent à 2h15. Et aussi pour Le Havre, face à Rennes à la même heure. À 5h45, on suivra Lyon, qui sera sur la pelouse d'Auxerre. En cas de victoire, l'OL 7e remontera à la 4e place du classement. Pour rappel, hier, Reims a dominé Lens 2-0. Dans la nuit, Monaco a écrasé l'OM 3-0. Lille a battu Toulouse 2-1. Et enfin, Strasbourg et Nice se sont quittés dos à dos, deux buts partout.
Du rugby et le dernier quart de finale de la Champions Cup, ce sera la nuit prochaine.
À 1h, deux clubs français vont s'opposer pour une place en demi-finale. Toulon accueillera le Stade Toulousain. Pour le coach de Toulouse, Hugo Mola, c'est avant tout une fête du rugby.
Au-delà de tout, au-delà de l'adversité qui peut nous opposer, je crois que c'est deux grands clubs du rugby européen, du rugby français. Je pense que c'est une superbe fête pour le rugby d'aller jouer un match comme ça à Toulon. Il faut le voir comme ça parce que dans tous les cas, le vainqueur, je l'espère, ira loin dans cette compétition.
Et pour aller loin, le vainqueur devra d'abord battre l'Union Bordeaux-Bègles en demi-finale. L'UBB tombeur du Munster 47-29 la nuit dernière. Dans l'autre demi, le Leinster défiera les Saints de Northampton.
Du tennis avec la finale du Masters 1000 de Monte-Carlo. Une finale inédite entre Carlos Alcaraz, tête de série numéro 2 du tournoi, et Lorenzo Musetti, numéro 16 du classement ATP. La finale est prévue pour ce soir à 21h.
Vos stations Shell et Pacifique, partenaires des pages spéciales Grand Prix de Formule 1 sur Radio Rythme Bleu.
La Formule 1 avec le Grand Prix de Bahreïn et fortune diverse pour les Français lors des qualifications, Léo.
Pierre Gasly est le meilleur tricolore ce week-end. Il a réalisé le 5e meilleur temps des qualifications, mais s'élancera finalement de la 4e position suite à une sanction reçue par les deux pilotes Mercedes pour une manœuvre illicite dans les stands. Le jeune Isaac Hadjar partira de la 12e place. Esteban Ocon, victime d'un accident lors de la Q2, sera sur la 7e ligne à la 14e place. Il sera aux côtés de Fernando Alonso. On écoute le Français.
C'est ma faute aujourd'hui, je suis déçu de ma performance en qualif, voilà, j'aurais
pas dû faire cette erreur. J'ai essayé de pousser un petit peu plus le virage 2 et je me suis retrouvé sur ce vibreur. Et j'ai perdu la voiture, j'ai tapé le mur. J'aurais dû faire mieux pour toute l'équipe. Donc on va essayer de faire le meilleur job possible demain. C'est pas encore fini, on part pas si loin des points quand même. On va tout faire pour essayer de rentrer dans ces points demain.
Et c'est Oscar Piastri qui s'élancera en pole position devant Charles Leclerc, George Russell, Pierre Gasly donc et Kimi Antonelli. Lando Norris sera 6e, Max Verstappen 7e. On notera la 8e position de Carlos Sainz et la 9e de Lewis Hamilton. Le Grand Prix de Bahreïn, c'est à suivre dès 2h la nuit prochaine.
C'était votre page spéciale Grand Prix de Formule 1 parrainé par Shell et Pacific. Shell, à nouveau partenaire innovation de la Scuderia 2025. Sélectionnez le meilleur pour votre véhicule.
Et après la Formule 1, on suivra pour les courageux le MotoGP au Qatar. Le départ sera donné à 4h la nuit prochaine avec encore une fois les frères Marquez sur la première ligne. Marc en pole position, comme d'habitude, devant Alex, côté français. Fabio Quartararo s'élancera de la 3e position et Johan Zarco de la 7e. Du cyclisme à présent avec les coureurs qui vont affronter ce soir l'enfer du Nord, Léo.
La 122e édition du Paris-Roubaix, véritable monument du cyclisme avec ses mythiques pavés, 30 secteurs pavés sont au programme cette année sur un parcours d'un peu plus de 259 km. Tadej Pogacar, Mathieu Van Der Poel ou encore Wout Van Aert font office de favoris. Le départ de cette 122e édition du Paris-Roubaix sera donné à 20h25 ce soir. Et je rappelle que la nuit dernière chez les dames, c'est la Française Pauline Ferrand-Prévot qui a réalisé l'exploit de s'imposer en solitaire.
Parlons des Calédoniens qui brillent sur la scène nationale et internationale.
Sur la piste du Vélodrome de Châteaubriant, d'abord, trois Calédoniens participaient hier à la journée du sprint, du cyclisme sur piste. Donc, Hervé Salin a remporté le Kérin et la vitesse. Il a également terminé deuxième du 200 mètres lancé. Chez les filles, Louise Chavitz s'est classée troisième féminine sur la vitesse et sur le 200 mètres lancé. Du côté de l'Australie, quatre athlètes du territoire étaient engagés ces derniers jours à la Pacific Cup Senior et à l'Oceania Junior d'haltérophilie. Ils ont décroché trois médailles d'argent, une pour Warren Sadiman et deux pour Mathis Sacco. Et puis un mot de handball avec une nouvelle victoire pour Suzanne Wajoka et l'équipe de France de handball. Après avoir battu les Pays-Bas 31-25 vendredi, elles ont récidivé la nuit dernière, victoire 31-28. La Calédonienne a inscrit 2 buts, elle en avait marqué 3 lors de la première rencontre.
Allez, les sports sur le territoire à présent, Léo, avec du VTT, c'était ce matin à ton tout à.
Oui, le VCC Mont-d'Or qui organisait son traditionnel souvenir Didier Portera. Ils étaient une petite quarantaine au départ d'une boucle de 8,3 km. C'était au bord de la base aérienne de la Tontuta, une boucle à effectuer entre 1 et 4 fois selon les catégories, une fois pour les plus jeunes, 4 fois pour les seniors. Des jeunes et des moins jeunes, des hommes et des femmes étaient présents. Les détails de Renato Portera, président du VCC Mont-d'Or.
36 partants qui apprécient le parcours apparemment, même si difficile. Le plus jeune a 13 ans, le plus âgé doit avoir plus de 60 ans, facile. Il fait un temps pourri sur le BA, mais ici à Tontuta, voilà. Temps splendide, il fait beau, limite chaud, mais parfait pour faire du vélo. Il y a deux difficultés sur le parcours, il y a deux bonnes montées. Après le reste, c'est des singles sous des arbres, donc ça va très bien. C'est un peu technique, ceux qui n'ont pas la technique, forcément ils vont perdre du temps dans les singles. Et ceux qui n'aiment pas les montées, malheureusement, les deux montées risquent d'être difficiles pour eux. Donc le principal, c'est de faire plaisir aux coureurs quand on organise une compétition. Et on a quand même passé quelques journées de débroussailleuse. Donc ça veut dire qu'on n'a pas passé du temps pour rien.
Et les premiers arrivés, ce sont les plus jeunes. Les U15, moins de 15 ans, n'avaient qu'un seul tour de 8,3 km à effectuer. On les écoute une fois qu'ils ont passé la ligne d'arrivée.
Bien, le circuit très très dur. Avec ces grandes montées et les étapes un peu techniques.
C'était une compétition qui était quand même relativement dure. Elle était assez variée. Il y avait beaucoup de choses dedans. Il y avait de la montée, de la descente, plus ou moins technique. Même si c'était plus physique que technique, c'était plutôt sympa. Ouais.
C'était dur les montées. Il y avait des petites crevasses, du coup, on tombait parfois dedans.
Je trouvais qu'elle était vachement dure, surtout avec le soleil, la chaleur. Et il y avait des montées, c'était vraiment à pic. Donc c'était super dur.
Enfin, c'est surtout que les montées, elles sont jamais à l'ombre. Les plus dures, elles sont en plein cagnard, donc ça fait mal au crâne.
Et il n'y a que de l'herbe. Du coup, comme l'herbe, ça ralentit encore plus, c'est vachement dur, quoi.
Chez les U15, c'est donc Eden Pamar qui s'est imposé. Victoire de Tchad Charette chez les U17. Alix Dudoué s'impose chez les hommes. Et enfin, Jessica Bélangué l'emporte chez les dames.
Et en bref, les résultats des différents événements organisés ce week-end sur le territoire, Léo.
Plus de 500 personnes ont participé hier soir à l'OSEF Full Moon Trail à Nessadiou. Sur le grand raid de 12,5 km, c'est Gabriel Espada qui a passé la ligne d'arrivée en tête. Emmanuel Favard, première femme, termine 20e. Sur le mini-raid de 4,5 km, c'est Léo Meyer qui s'impose chez les hommes et Emmanuel Lamontagne chez les dames. Il y avait aussi du drift hier à Tomo-Valley. Loïc Renier a remporté la première manche du Red Bull King of Drift. Il devance Kerian Chedorge et Nicolas Thévenet. Dans la catégorie loisirs, Julien Ancar a pris le dessus sur Glenn Newland. Et puis on termine avec du volley. C'était la première journée hier du championnat organisé par le comité provincial Nord. Chez les dames, l'AS Goa a battu l'Amicale Sportive Province Nord et le Point d'Imier Sport Volley. Le PSV qui s'est imposé dans le dernier match sur l'ASPN. Chez les hommes, l'association Omnisport de Pointe-Bout a réalisé le sans faute. Victoire sur Point d'Imier et sur Conné.
Et on termine ce journal avec la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Et les couleurs du ciel, c'est avec vous ce soir, Maxime.
Oui, bonsoir à tous. Alors, tout d'abord, pour cette nuit, le ciel sera très nuageux à couvert. Des petites averses qui pourront circuler également sur tout le territoire et prendront un caractère orageux, surtout en soirée, en particulier sur l'est et l'extrême sud. Elles deviendront assez rares sur l'ouest en fin de nuit. Le vent de secteur sud-est se maintiendra entre 15 et 20 nœuds en général, avec rafale à plus de 30 nœuds sous fortes averses. Et elle faiblira entre 5 et 10 nœuds seulement. Mais les températures minimales ce soir seront assez stable avec 23 à 25 degrés. Et demain matin, le ciel sera généralement couvert, des averses qui seront assez rares sur la côte ouest. Ailleurs, elles pourront être parfois assez fortes et orageuses, en particulier sur l'extrême sud et les Loyautés. Le vent s'orientera est-sud-est, souvent compris entre 15 et 20 nœuds. Il sera plus faible sur le nord-ouest, autour des 10 nœuds seulement, et des accélérations resteront possibles à plus de 20 nœuds avec rafale à 30 nœuds à proximité de fortes averses.
Merci Maxime, il est 18h12, c'est la fin de ce jour. Vous remercions de l'avoir suivi.